Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec CDC Habitat, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi 29 mai 2024 édition. C'est la 28e édition du Salon des maires d'Île-de-France. On est ravis d'être avec vous pour cette table ronde que nous avons construite avec CDC Habitat, que je vais animer pendant les 40 prochaines minutes. Et nous avons réuni les meilleurs professionnels franciliens de l'habitat et on ne va pas se priver de les présenter. Directeur interrégional de CDC Habitat Île-de-France, Éric Dubé. Bertrand, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Aude Debray, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Présidente du directoire de Grand Paris Habitat. Merci d'être avec nous. On va passer une quarantaine de minutes pour décrypter aussi l'actualité, mais aussi peut-être toujours faire du rappel de comment fonctionne CDC Habitat. Je vais commencer par vous poser la question à vous, Éric. Le groupe CDC Habitat est construit de quelle façon et quelle est votre mission première, vous qui êtes directeur interrégional?
En Île-de-France, d'abord, le groupe est très présent puisque c'est 145 000 logements, sans compter Adoma, que nous gérons sur plus de 360 communes. Ça, c'est important, qui est le fruit notamment en termes d'organisation de la fusion de 2019 des 13 ESH qui a permis de constituer CDC Habitat Social et puis un établissement qui gère l'ensemble des logements CDC Habitat et CDC Social. Avec une particularité en Île-de-France, compte tenu de sa taille et de son effet d'échelle, et des enjeux très forts sur lesquels nous reviendrons sûrement en Île-de-France, avec deux structures, avec Aude, qui est présidente de Grand Paris Habitat, eh bien nous avons la responsabilité de mettre en œuvre les orientations du groupe sur l'Île-de-France et de piloter l'ensemble de l'action. Aude, avec Grand Paris Habitat, ayant en charge notamment la maîtrise d'ouvrage, le développement, le renouvellement urbain, et puis les réhabilitations pour le compte de CDC Habitat, elle y reviendra, mais aussi pour le compte des partenaires, moi ayant le rôle de bailleur et ayant la responsabilité de la gestion locative patrimoniale de l'ensemble du patrimoine de CDC Habitat. Donc une organisation un peu atypique mais qui du coup, compte tenu des enjeux, comme je le disais, et de l'effet d'échelle, nous permet d'être très fort sur le territoire autour, et on y reviendra aussi je crois, d'un projet de territoire qui est la déclinaison du projet d'entreprise et que l'on a élaboré il y a quelques années et qu'avec Aude, on met en œuvre tous les jours, quotidiennement.
Finalement, c'est la mission aussi de Grand Paris Habitat justement de développer.
La mission Grand Paris Habitat est l'opérateur de développement et de maîtrise d'ouvrage pour le groupe et également pour des adhérents externes puisque nous sommes un GIE. Qui rassemble également 21 adhérents externes. Alors historiquement, c'était soit des petites structures d'établissements publics de logement social, soit à l'échelle communale, soit à l'échelle intercommunale, même alors, de taille plus importante à l'échelle départementale, puisqu'on a deux départements qui sont adhérents. Et puis sinon, on travaille également pour les CROUS. Voilà, mais la très grosse majorité des opérations que nous conduisons, c'est pour le compte du groupe.
Finalement, vous avez un rôle de coordination globale auprès de tous ces adhérents.
Alors,
c'est un facilitateur.
On est un facilitateur quand ils n'ont pas toujours la capacité technique de réaliser des opérations de maîtrise d'ouvrage qui peuvent être complexes.
Est-ce que vous avez un socle de compétences qui vous permet de déployer cette technique pour eux?
On a des capacités à la fois de développement, de conduite de projets, que ce soit en réhabilitation ou en ANRU, puisque nous conduisons de très nombreux projets de renouvellement urbain, soit dans le cadre de l'ANRU, parfois même ce qu'on appelle de l'ANRU sans ANRU, pour lesquels les collaborateurs ont vraiment développé des compétences qui vont de la conception du projet urbain, la négociation avec les partenaires et puis la conception technique des projets et leur réalisation. Et effectivement, nous mettons ce savoir-faire au service de nos adhérents pour œuvrer dans leurs projets au quotidien.
Il y a des enjeux majeurs sur le plan francilien avec la compression démographique. Justement, vous mobilisez l'ensemble des territoires pour développer ce qu'on appelle un habitat accessible à tous et dans un contexte, pour le dire, on ne va pas éluder la question, assez compliqué, on peut le dire. Crise du secteur de logement, production Écoutez, moi, ça fait 34 ans que je suis dans ce métier, j'ai rarement vu une baisse aussi radicale sur la construction de logements neufs. Décarbonation du patrimoine, partenariat avec les collectivités locales dans lequel vous vous inscrivez comme un allié objectif et accompagnement bien sûr des locataires, ça c'est le pilier de l'action de l'habitat. Quels sont, et c'est une question assez générique qui ouvre le débat, quelles sont les réponses opérationnelles que vous, CDC Habitat, globalement, pouvez apporter justement compte tenu de ces difficultés, j'ajouterais même compte tenu parfois d'injonctions opposées qui vous placent techniquement ou pas dans des, parfois dans des situations dans lesquelles il faut être un véritable artiste, si je peux me permettre, pour justement œuvrer. On va commencer par Eric.
Écoutez, pour compléter ce que nous disions précédemment, c'est vrai que on voit bien que CDC Habitat aujourd'hui a un rôle d'opérateur global. C'est vraiment important parce qu'en fait, nous inscrivons plus comme un opérateur du logement, mais de l'habitat, dont le cœur de métier est bien d'offrir et de proposer une offre de logement aux franciliens et aux franciliennes la plus adaptée possible. Adapté aux besoins évidemment de vie, ça veut dire c'est le parcours de vie et donc résidentiel, donc ça veut dire la capacité de pouvoir produire à la fois du logement accessible, du logement abordable, du logement, mais aussi du logement social, intermédiaire, du logement pour les publics, comme les publics jeunes, accompagner nos seniors avec des résidences autonomie, des résidences services seniors, etc. Donc, et du coup, du service derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc répondre aux besoins, être vraiment très à l'écoute des territoires. Et donc, c'est le choix que nous avons fait avec Aude à travers le projet de territoire, notamment. C'est vraiment de pouvoir être vraiment aux côtés des élus, des décideurs locaux, parce que sur les questions de logement et d'habitat, la décision se prend souvent localement, et on le sait bien. Et donc, et de pouvoir aussi, grâce à ce travail-là en proximité, de pouvoir justement anticiper les projets à venir. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, ça veut dire, un, il faut vraiment être sur notre cœur de métier le plus finalement irréprochable possible. Ça veut dire donner le meilleur, que ce soit en termes d'entretien du patrimoine, de gestion locative, d'accompagnement des publics fragiles, et donc aussi de développer des nouveaux services. Et ça, c'est très important, et on y reviendra. Et ça
tout veut dire... est intégré. Hein.
Oui, ça veut dire qu'en
tous
fait...
Tous les métiers sont intégrés dans le
projet. Oui, dans le projet de territoire, oui. Mmh. Et puis d'être en capacité de répondre aux besoins plus... au-delà des besoins conjoncturels, des besoins structurants par rapport aux enjeux de la métropole et au-delà de la métropole de l'Île-de-France, ça veut dire d'accompagner les pôles de développement, d'accompagner le rapprochement des salariés vers les bassins d'emploi. Ah oui. Et donc, ça, c'est tout le travail que l'on mène avec Aude, que ce soit en amont ou en aval, depuis l'acte de construire jusqu'à l'acte de loger derrière, avec tout le travail qu'on fait avec nos partenaires institutionnels que sont les ministères, la PHP, pour pouvoir justement proposer des logements aux salariés des hôpitaux notamment, ou des entreprises, comme on l'a fait récemment à Issy-les-Moulineaux avec André Santini et puis avec un certain nombre d'entreprises. Donc ça, c'est pour nous important. Et puis d'accompagner les grands projets structurants. On parle du Grand Paris Express, de l'ensemble de ces gares qui se construisent. Il faut qu'on soit présent aussi dans ces moments-là.
Merci pour la caméra ordinaire. On est en direct, les amis, hein, c'est pour ça. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est mis devant la caméra, comme ça. Pourquoi pas, hein. Oui, donc projet structurant. Est-ce que justement, alors, on entend bien effectivement que vous avez cette volonté et vous êtes ce qu'on appelle un opérateur global. Vous êtes sur toutes les lignes métiers sur des actifs qui sont essentiellement résidentiels,
oui.
Uniquement résidentiels.
Pas uniquement résidentiel, mais ce que vous appelez le résidentiel.
Alors, non, je veux dire, est-ce que vous faites du bureau? Est-ce que vous faites
on ne fait pas de bureau.
Non, voilà.
Non,
vous êtes
bureau.
Uniquement sur du logement.
C'est ça, on fait du logement. Oui, mais simplement, il couvre beaucoup de champs, déjà celui-ci. Voilà, ça veut dire.
Oui, mais.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner finalement les Franciliens et les Franciliens durant tout le parcours de leur vie. En fait, c'est ça, c'est vraiment le parcours de vie. Donc, et en fonction évidemment des besoins, comme je le disais, des plus fragiles, jusqu'à ceux qui peuvent faire de l'accession. Et ça, c'est pour nous très important.
C'est pas une équation facile à résoudre, hein, quand même. parce qu'il y a une multipolarité justement de décision, d'échelle de décision.
Alors peut-être pour illustrer un petit peu les propos qu'Éric vient de tenir, vraiment notre cadre de référence, c'est notre projet de territoire, qui est donc la déclinaison stratégique et opérationnelle de la stratégie du groupe, et qui vise à relever quatre défis principaux qui sont finalement les quatre points cardinaux de notre boussole. C'est à la fois le défi social, Éric l'a dit, c'est accompagner chaque habitant dans son parcours de vie, un défi économique pour véritablement diversifier les quartiers, créer de l'attractivité. Et ça, quand vous nous demandiez, vous faites que du résidentiel, bah, y a quand même une problématique, par exemple, de commerce,
un peu d'immeuble. Voilà, c'était un peu
sur lequel nous essayons évidemment d'être présents.
Des commerces de pied d'immeuble, de l'activité, par exemple.
Voilà. Donc ça, c'est le défi économique. C'est le deuxième axe de notre boussole. On a un défi de cadre de vie pour à la fois encourager le vivre ensemble des habitants et tout ce qui va véritablement permettre d'améliorer le cadre de vie. Et puis le quatrième sujet, mais je pense qu'on y reviendra, c'est le défi environnemental pour nous préparer au changement climatique, à la transition environnementale. Et là, on a bâti une ambition très forte avec des engagements sociétaux et environnementaux. Et donc, ce projet de territoire avec cette boussole et ces quatre défis que nous cherchons à relever englobe la totalité de nos métiers pour véritablement être au plus près des territoires, des besoins des élus, des besoins des habitants et renouveler sans cesse nos compétences, les compétences de nos collaborateurs pour justement embrasser de nouveaux enjeux et de nouvelles compétences.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser à une espèce de management qui devient plus latéral, vous voyez, très de la coopération et de la co-construction permanente. Oui. Est-ce que c'est un changement de paradigme avec le recul professionnel que vous avez de la carrière, ou est-ce que, parce que je trouve que votre approche, elle est vraiment innovante.
Je crois sincèrement, c'est que dans le monde du logement et notamment du logement social et des bailleurs, je pense que aujourd'hui on est passé à une étape et à un moment de la vie et notamment de la mise en œuvre des politiques publiques nationales ou locales en particulier, qui est un peu différente, où on voit bien que les sujets sont de plus en plus complexes, où l'argent malgré tout se raréfie, où la gestion devient plus compliquée, et donc nonobstant tous les éléments de contexte depuis quelques années, et qui finalement nous amène, quels que soient d'ailleurs les bailleurs, à penser un peu autrement la façon d'intervenir sur les territoires. Voilà ce que je crois. Et qu'il faut forcément avoir, comme je le disais, un cœur de métier et une mission centrale qui reste évidemment très, très noble et d'utilité sociale, qui est de loger nos concitoyens, mais dans les meilleures conditions. Mais qu'aujourd'hui, on est amené à aller au-delà. Ça veut dire qu'à pouvoir être à des partenaires, à même des fois être contributeurs des politiques publiques locales, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Hein, d'accord,
un exemple.
Aujourd'hui, très concrètement, sur les territoires, on arrive à être contributeur, par exemple, d'une politique de sûreté, par exemple, où on s'inscrit dans des partenariats très forts avec les collectivités, avec l'État. On est contributeur sur des politiques, on parlait de commerce et de vie économique, où là on nous attend sur pas uniquement une posture d'opérateur, mais aussi dans la réflexion, dans l'analyse et dans la proposition. Enfin, c'est ça, où y compris sur les questions d'aménagement, où là forcément on le voit bien, y compris notre savoir-faire, notre expertise. Alors c'est vrai que c'est des habitats. On a la chance d'être un groupe très structuré, aujourd'hui très organisé, et puis en Île-de-France avec une expertise très forte. Mais on le voit bien, aujourd'hui, on est de la part des collectivités locales, de la part de nos locataires qui sont nos clients aujourd'hui, parce qu'on a aussi cette culture client qu'on développe, et bien des exigences très fortes voilà, dans les domaines dont parlait Aude, et même au-delà, qui font qu'aujourd'hui, nous nous sommes amenés, et grâce d'ailleurs à ce projet de territoire, à construire des logiques qui s'appuient sur des orientations, qui vont qui mettent en œuvre des chantiers métiers. On va plus loin en termes d'innovation, on essaie de réfléchir en effet sur la biodiversité, on essaie d'être en avance sur justement les réhabilitations et sur les opérations un peu expérimentales. On essaie d'être contributeur avec la ORIF, puisqu'on y est tous les deux avec Aude, pour justement faire avancer toutes ces réflexions en matière d'expérimentation, différenciation. On a récemment fait un colloque avec l'AEF là-dessus. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Donc ça veut dire qu'en fait, on voit bien que les bailleurs aujourd'hui sont amenés à avoir un rôle un petit peu différent. Voilà. Et donc forcément, pour pouvoir le tenir, ce rôle, il faut construire ces démarches-là, être en capacité de faire des propositions et donc de mettre en œuvre. Et ça, c'est très important.
Et des méthodes, finalement, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des méthodes qui développent de la synergie à tous les niveaux, finalement, construction en synergie pour mener ce fabuleux projet de territoire.
On est complètement à travailler en partenariat.
Oui.
Et en fait, dès qu'on regarde un territoire, de préférence évidemment à l'échelle intercommunale, on commence par analyser la stratégie du territoire, le PLH s'il existe, le SCOT, pour regarder véritablement quels sont les besoins spécifiques que ce territoire peut avoir identifié, par exemple accompagner des femmes victimes de violences, enfin, des thématiques sur l'accompagnement des enfants ou autres. Et sur chacune de ces thématiques, ça peut être des politiques de développement des modes de circulation doux ou autres, on regarde qu'est-ce que nous, comme bailleurs présents sur le territoire, on peut apporter comme contribution aux politiques locales et comment on peut proposer. Et ça passera le plus souvent soit par un partenariat avec les collectivités, des partenariats avec des associations, des partenaires avec un partenariat avec des opérateurs. Quand vous dites les choses sont de plus en plus compliquées, oui, et la réponse c'est on peut faire de moins en moins de choses tout seul.
C'est intéressant parce que c'est un changement de paradigme. Et c'est surtout une nouvelle approche. Je trouve ça extrêmement innovant parce que, en fait, ceux qui ne vous connaissent pas bien, vous avez une puissance de tir colossale. Et donc, vous êtes, quand je parle d'alliés objectifs auprès des élus locaux, c'est vraiment fondamental. Alors justement, on va reprendre les éléments sur les quatre piliers que vous avez développés, mais c'est aussi sur l'approche que vous avez de cohérence, de proximité et de coopération entre tous ces métiers qui sont quand même complexes. On est d'accord, Aude et Eric. On ne peut pas résumer la complexité en 3 minutes. Une approche complexe nécessite une rigueur académique, une rigueur très précise et surtout, au sens étymologique du mot, la pratique d'une polytechnicité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans la maîtrise d'ouvrage, finalement, dans cette vision globale, multipolaire, aussi dans vos équipes, le fait d'essaimer, de former, d'acculturer une génération de collaborateurs qui vous entourent, Aude et vous, Eric, justement, à une vue plus à 360. Oui, ouais, voilà, avec une vision très, très ouverte. Est-ce que ça, c'est aussi dans les métiers un changement? Parce que forcément, vos métiers évoluent, vous formez vos collaborateurs, ils sont en ordre de marche pour ces projets de territoire.
Alors, nos collaborateurs, évidemment, se forment, je dirais, tous les jours sur le terrain, oui, avec les opérations, pour être aussi source de force, de propositions. Mais on essaye aussi de développer. On a comme des compétences vraiment techniques. Par exemple, les exigences de décarbonation nous posent vraiment des nouvelles exigences.
Absolument.
Dans la manière d'aborder les réhabilitations.
Ça fait même naître de nouveaux métiers.
Que ce soit sur les questions de diagnostic, on voit que, par exemple, on a besoin de plus de compétences de thermiciens qu'on n'avait pas forcément auparavant.
Eh oui.
On est en train de développer vraiment des compétences sur les réseaux de chaleur urbains, sur les pompes à chaleur, oui, sur des tas de sujets qui n'étaient pas... Bon. Donc on doit sans arrêt, effectivement, se mettre à niveau, je dirais, et effectivement, par la puissance que nous représentons en commande publique, en capacité d'achat, nous avons un effet d'entraînement sur toute la filière professionnelle. Si vous voulez, en termes de réhabilitation, grosso modo, GPH, pour le compte du groupe, c'est à peu près 3000 logements par an, plus 1000 pour les adhérents externes. Donc on a une capacité, par la commande publique, vraiment à former des exigences vis-à-vis des professionnels pour aussi les entraîner dans ces démarches. Et puis eux-mêmes nous le rendent bien, puisque certains d'entre eux sont très en avance sur certaines thématiques. J'en profite, je vais signer tout à l'heure l'adhésion à la plateforme Cineo avec Bouygues Construction.
Ah oui, remarquable.
Et voilà, et donc typiquement, dans nos engagements sociétaux et environnementaux, l'économie circulaire et le réemploi font partie de nos sujets majeurs. Mmh. Et donc, on a besoin d'être aussi accompagnés. Donc, nous, on est donneurs d'ordre, mais on sait aussi aller chercher l'appui de professionnels qui ont déjà développé une expérience que nous n'avons pas complètement encore pour contribuer à monter et en compétence et à acquérir cet effet d'échelle qui permettra demain de rendre ce type de démarche moins onéreuse et plus naturelle.
Vous savez que l'effet de levier, c'est très important ce que vous dites, permet à la fois l'accélération des compétences, et quelque part indirectement, vous financez cette innovation.
Oui.
Parce qu'en fait, par la puissance de cette commande publique, vous créez une émulation, une dynamique de j'allais même dire presque une révolution. Je prends simplement, par exemple, ce qui s'est fait aujourd'hui sur l'éco-rénovation, sur l'habitat. Mmh. C'est incroyable. Les évolutions sont absolument phénoménales.
Alors, juste Eric, pour compléter ce que disait Aude, ça veut dire qu'en fait, par rapport à la façon dont on travaille avec nos collaborateurs, il y a ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire il y a le sujet de la culture client et donc de la relation à nos locataires, mais pas qu'à nos locataires. Ça veut dire que du coup, là, pour le coup, il y a un vrai sujet de transformation. Vous voyez, chez nous, ça veut dire chez nous comme... J'imagine
comme dans tous les bailleurs.
Voilà, toutes les entreprises, mais notamment les bailleurs. Ça veut dire que du coup, et que cette culture client, elle, pour le coup, elle touche tous les métiers et irrigue vraiment l'ensemble de nos activités, puisqu'on en parle souvent avec Aude. Ça veut dire que concevoir un logement, c'est penser au locataire pour qui, évidemment, on le construit, donc au client potentiel qu'on aura demain, et le gérer, etc. C'est pareil. Donc, du coup, ça, c'est important. Donc, ça veut dire que cette relation-là, aujourd'hui on travaille, on a une démarche culture client au sein du groupe qu'on a entamée depuis plusieurs années pour acculturer l'ensemble du personnel dans des postures qui sont un peu différentes. Hein. On est dans l'écoute, on est dans la réactivité, on est dans l'implication. Enfin voilà, c'est ça les sujets. Et puis il y a le sujet des territoires et donc de la relation aux élus. Et ça, c'est pareil pour un groupe comme le nôtre, qui est un groupe national, mais qui a vocation à être en proximité. Eh bien, on a besoin de collaborateurs au-delà de Aude et de moi, qui sachent ce que c'est qu'une collectivité, parler à des élus, comprendre les contraintes, etc., etc. Et donc, c'est ça qui va nous permettre, finalement, d'être un partenaire efficace dans la construction, justement, et l'aménagement du territoire.
J'aimerais bien qu'on développe avec, possible aussi, même des illustrations qui marquent bien l'ADN, ce qui préside, finalement, à la construction de ces quatre piliers que vous avez cités tout à l'heure. Un défi social, ça c'est fondamental, clairement. Un défi économique, un défi
cadre de vie
et un défi enfin environnemental. Je voudrais qu'on prenne le premier défi qui est un défi social. Mmh. On le voit aujourd'hui, la ligne 2023 et 2024 est marquée quand même par un arrêt brutal de la construction, une remise à plat des politiques publiques. Bien évidemment, on ne va pas revenir sur le cadre politique, on n'est pas là pour ça, mais vous avez vu que Guillaume Kasbarian a développé sa feuille de route en quatre points, a été présenté au Sénat, cet examen d'une nouvelle loi logement. On attend un peu les contours du financement de tout cela, donc on va laisser le crédit, on va dire, le capital confiance à Guillaume Kasbarian, qui se bouge plutôt bien. Voilà. Vous voyez, je le dis, voilà, pour l'instant, je suis optimiste. En quoi ça consiste concrètement, Aude, de ce défi social, sachant justement que compte tenu de cette crise grave du logement, d'une pression démographique aujourd'hui qui pèse lourdement, d'une densité urbaine, il faut quand même le rappeler, en Île-de-France, qui représente quand même 31% du PIB, 17 ou 18 millions d'habitants, un cinquième de la population française, vous avez, alors moi j'adore votre job, vous avez un terrain de jeu extraordinaire d'expérimentation. Comment on répond alors, socialement sur ce premier pilier?
Alors moi, dans le rôle qui est le mien à GPH, notre ambition, c'est de produire du logement social. Voilà. C'est-à-dire que nous avons, ces dernières années, produit beaucoup de logements intermédiaires qui correspondent à un besoin pour un certain type de population. Et il en faut.
Bien sûr.
Mais on s'était un peu éloigné, en tout cas en Ile-de-France, de la production stricto sensu de logements sociaux.
Absolument.
Donc nous sommes en train de travailler sur la stratégie, nos modes d'action pour redevenir un acteur puissant de la production de logements sociaux. Donc déjà, comme nous acquérons beaucoup de programmes en VEFA, vous le savez, parce qu'on a, c'est comme ça qu'on a soutenu la production de logements.
On a les chiffres ?
Oui, pas loin de 5000 l'année dernière. 40% du plan de soutien s'est fait en Ile-de-France presque. Bon.
Eh bien, vous avez un peu sauvé les promoteurs. Puis.
Alors, non, mais le but, ce n'était pas de sauver les promoteurs, le but, c'était de sauver la production de logements. Et ce que je voudrais dire, c'est que même si dans ce cadre-là, même quand on achète du logement intermédiaire, pratiquement tous les programmes sont mixtes. Et donc, même si on le déplore et même si ça n'est pas le groupe CDC Habitat qui sera le producteur du logement social, finalement, on a permis à un autre bailleur de produire du logement social. Donc, finalement, premièrement, en produisant du LLI, ça peut sembler paradoxal, on aide la production de logement social qui, finalement, ne se serait pas fait. Mais vraiment, on cherche à renforcer la production de logement social. On est en train d'étudier comment être plus présent, justement, donc cette démarche de projet de territoire auprès des collectivités pour les convaincre. Et puis, on travaille sur nos propres outils, sur notre modèle économique, pour voir comment être plus performant lorsque l'on répond aux consultations. Et puis, par exemple, comme nous continuons à acheter en VEFA en 2024, eh bien, nous avons très clairement dit aux promoteurs, on n'achètera plus de logement intermédiaire si vous ne nous proposez pas le logement social. Et donc là, on est en train de... et finalement, on voit qu'ils viennent nous voir avec des programmes mixtes. Et au lieu d'avoir déjà prévendu le logement social à d'autres et puis de venir finalement nous voir pour transformer ce qui était de l'accession initialement en logement intermédiaire, ils réfléchissent maintenant à un projet global dans lequel nous avons toute notre place pour produire le logement social et tout type.
C'est un vrai changement, ça.
C'est un vrai changement, absolument.
Je ne l'avais pas entendu. Non, mais c'est hyper intéressant. Parce que... Est-ce qu'on produit assez de logements sociaux
non.
en Ile-de-France ? On en est loin.
Non, mais, ça c'est clair.
Non, parce que je veux dire, voilà, on va pas.
Non, dire... mais on le sait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, vous l'avez rappelé, ça veut dire que l'Ile-de-France, c'est 20% de la population du pays. Oui. C'est
31% du PIB.
C'est 30% de la demande sociale.
Absolument.
De logements sociaux, quand même. C'est donc plus de 850 000 aujourd'hui demandeurs de logements sur l'année, ça veut dire que ça a bondi de 15% par rapport aux années précédentes.
C'est une pression terrible.
Voilà, c'est une pression très très forte. Hein, et une production en termes d'agrément, ça veut dire pas forcément la production sortie de terre, d'agrément l'année dernière, de moins de 19 000 logements. Bon, évidemment, si on compte la reconstruction de l'ANRU, ça fait 2500 en plus. Mais donc, qui est quand même un niveau très très bas.
Très loin du compte.
Voilà, très loin du compte. Donc ça veut dire qu'on a une vraie problématique en termes d'offres de logements. Donc ce que rappelait Haute, c'est évidemment l'engagement de CDC Habitat. On essaie de travailler sur, on le disait tout à l'heure, le rapprochement entre les besoins du territoire et l'offre qu'on peut mettre à disposition. Donc ça, c'est très important. Le projet de territoire en fait partie de cet outil-là. Et puis, de construire des partenariats, y compris, comme je le disais tout à l'heure, avec les fonctions publiques, avec les entreprises, pour répondre à votre question sur le défi social, ne plus considérer finalement qu'on construit du logement pour construire du logement, on construit du logement pour répondre à un besoin qu'on a mieux identifié, qu'on a plus anticipé. Après, on a tout un tas de freins, évidemment, on le sait bien, le contexte, l'augmentation des taux, des coûts, l'accès au foncier, tout ça, on l'a bien en tête, et puis du coup, y compris nous et dans le cadre, y compris de l'ORIF, on a fait les 20 propositions que vous connaissez, etc., qui sont d'ailleurs étudiées par l'État et l'État local qui est assez sensible à une partie de ces propositions. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à décoincer un certain nombre de sujets. C'est pas simple, voilà, parce qu'on est dans un moment de frilosité aussi, ou d'attente. Et puis on est à 2 ans des élections, un peu moins un an et demi des élections municipales. Hein, et donc forcément, ça contribue. Pas, en tout cas, débloquer des projets.
Alors, il y a un facteur aussi qui est important dans notre dialogue avec les élus, c'est la volonté du groupe de relancer la maîtrise d'ouvrage direct. Parce que finalement, les élus sont assez contents de pouvoir être directement prescripteurs sur un projet, qu'on puisse le bâtir avec eux, y compris en termes de typologie de logement, d'exigences environnementales.
Et ça améliore les rapports de la collectivité locale avec l'acte de bâtir.
Ah mais oui. Absolument. Et donc là, nous, on voit bien qu'à travers la maîtrise d'ouvrage direct, que vraiment nous essayons de faire 30%, notre objectif c'est 30% de la production en maîtrise d'ouvrage direct, c'est à peu près 600 logements qui ont été livrés l'année dernière.
Cette tendance va augmenter.
Absolument, sur les 5200, on a renforcé nos équipes très fortement pour cela. Et on voit que c'est un bon outil d'être directement producteur de logements en maîtrise d'ouvrage direct. Ça crée de la confiance avec les élus. Mmh. Ça permet de satisfaire leurs exigences quant à la qualité des projets et la satisfaction de leurs besoins locaux. Et donc, c'est incontestablement un bon vecteur.
Je regardais les volumes. 2023-2024, c'est 1000.
Oui, on va essayer de faire 1000 logements par an en maîtrise d'ouvrage direct.
Super.
On est sur cette. Super. Alors, on utilise tous les moyens, que ce soit de répondre à des consultations, de faire de la prospection foncière, parce qu'on a constitué des équipes qui sont importantes. On essaye de proposer à des promoteurs de faire de la co-maîtrise d'ouvrage.
Absolument.
Et pas simplement de la copromotion où on irait leur acheter des VFA. Et on essaye de leur dire. Quand le terrain, ce n'est pas toujours le cas, mais quand le terrain s'y prête et qu'on peut avoir un permis de construire valant division,
bien sûr.
Et ben chacun chez soi et chacun construit sa part.
D'ailleurs, je me permets de prendre un exemple, c'est la résidence Catherine Leroy à Sannois.
Oui, alors ça c'est un sujet de densification.
Ouais, c'est vachement.
Parce que là aussi, évidemment, comme on est pris par le ZAN et puis cette ambition de sobriété foncière qui est complètement dans les engagements de la transition environnementale, eh bien nous regardons de manière très attentive les capacités de densification potentielle sur le parc de logements du groupe. Et là, dans le cas présent, il s'agit de produire 27 logements sociaux et nous allons construire sur le parking de la résidence voisine.
J'ai vu.
Et évidemment, en utilisant des matériaux biosourcés avec de nombreux labels.
Loin. Alors, je vais vous dire, vous êtes champion du monde des labels. Hein.
Ah oui, ce projet est labellisé dans le Val d'Oise.
Ils y sont tous.
Ouais.
J'en ai peut-être perdu un, mais HQE. E+C, BBC, enfin, c'est...
Non, non, mais il y a une très belle ambition.
C'est une pièce d'architecture que je trouve remarquable parce que, d'ailleurs, c'est le défi social. Parce que dans le défi social, c'est la production de logements. Mais il y a un corollaire avec le cadre de vie. Et
vous
pensez, votre vision première est intéressante parce que vous pensez à ceux qui vont les occuper.
Oui.
Et je reviens à la maîtrise d'ouvrage direct. Du coup, la collectivité locale qui est face à ses administrés, on a un maire qui souhaiterait être réélu, bien évidemment. Je suis sûr qu'il doit prendre un soin, ses équipes doivent prendre un soin particulier à l'accompagner pour le bénéfice exclusif de ceux qui vont l'occuper.
Ah bah c'est sûr qu'il y a vraiment un travail conjoint. Dans le choix des architectes, on a des concours dans lesquels les élus siègent. C'est vraiment des projets qui sont menés main dans la main.
Et ce que vous disiez sur le défi social, c'est vrai que ça renvoie à la façon dont on va travailler pour rendre notre patrimoine résilient, comme on dit. Ça veut dire en fait qu'il puisse, dans la durée, résister au temps, s'adapter et donc être en capacité dans 10 ans, 15 ans, 30 ans. Parce qu'en fait, on pense le logement à horizon 2050. En fait, c'est ça, nous, notre travail. Et donc, c'est de le décarboner, c'est de le rendre plus accessible, c'est de pouvoir construire avec des matériaux qui sont dans le cadre de l'économie circulaire ou du réemploi. Enfin, c'est ça fait système, en fait.
Et la construction hors site, vous en pensez quoi? C'est quoi votre avis sur la construction? Sur l'assemblage?
On en
parle beaucoup. Hein.
Oui, c'est un des vecteurs. Nous avons signé la démarche. Nous sommes partenaires. Nous sommes membres de l'association hors site. Et puis, nous avons effectivement déjà des expériences sont très réussies. Ouais.
Très intéressant. On finira peut-être un jour à avoir 100% des chantiers en mode BIM. Hein.
Alors, c'est pas la même chose.
Ouais, quand je dis en mode BIM, je fais une analogie en fait. C'est qu'il y a une techno qui a été développée qui permet en fait d'optimiser effectivement ce type d'acte de construction. Est-ce que le hors-site, justement, comme on le dit souvent, va permettre de réduire les coûts? Parce qu'il y a un problème de coûts et d'accès au logement qui est quand même...
L'idée de la charte qui est très intéressante, c'est d'associer le maximum de donneurs d'ordre et d'acteurs qui sont contributeurs de l'acte de construire avec des maîtres d'œuvre pour, là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, susciter cet effet d'entraînement et constituer une filière. Parce que pour l'instant, on n'a pas forcément immédiatement des économies liées au hors-site. Mais en revanche, les économies, si vous voulez, par exemple, c'est que vous avez des chantiers qui sont beaucoup plus rapides, qui génèrent moins de nuisances pour les habitants et pour les riverains. Donc vous avez une immobilisation du chantier qui est plus courte. Et puis du coup, on va effectivement, par cet effet de filière, accroître les masses et on espère réduire les coûts en utilisant des matériaux, si vous voulez, décarbonés, avec une façon de construire qui soit plus frugale. Donc c'est vraiment là aussi une démarche d'ensemble dans lesquelles on pèse en étant donneur d'ordre. Et puis je pense que, si vous voulez, c'est un sujet important dans l'évolution du métier de la construction. C'est-à-dire qu'on a quand même une inquiétude aussi sur l'acceptation par les ouvriers qui sont sur les chantiers, de la pénibilité. Et évidemment, quand vous êtes à faire du préfabriqué en usine, la pénibilité n'est pas la même.
Mais ce n'est pas destructeur d'emploi ?
Ce n'est pas destructeur d'emploi parce que c'est produire autrement.
C'est la question
c'est
qu'on pose souvent.
Non, ce n'est pas destructeur d'emploi. Non, pas du tout. Et on le voit bien, nous, on a une expérience là qui s'est conclue, qui s'est terminée à Trappes avec la résidence Castiglione, 140 logements. Alors on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Massireno de l'État avec un financement d'1,5 million en plus, voilà, hein, parce que ça occasionne un surcoût. Parce qu'on n'est pas aujourd'hui
en phase de démarrage.
On est en phase de démarrage et qu'il n'y a pas de filière qui a émergé. Mais du coup, ça va y contribuer et avec une réduction quand même de la consommation de 3 fois la réduction de consommation, donc avec une promesse de réduction aussi des charges pour les locataires, parce que c'est ça l'important, et puis avec des atouts. Et puis on a une deuxième avec les biscottes à Sarcelles, où là c'est pareil, on est, mon petit doigt me dit qu'on va sûrement obtenir un prix départemental sur ce sujet-là, donc ça veut dire que du coup, alors ça veut dire qu'on est un acteur engagé.
Oui. Ce sont des travaux de façade. Hein,
exactement. On est dans de la réhabilitation. Là, on n'est pas dans la construction de logements, mais la réhabilitation. On sait très bien que le sujet de la réhabilitation est un sujet essentiel, hein, parce que quand même, bien c'est sûr. Le stock de logements.
Ah, c'est clair.
Voilà. Donc, il faut quand même penser à ce logement. Et donc, on est un acteur engagé dans ce champ-là. Et en effet, on développe, grâce à Aude et ses équipes, une expertise forte qui va nous permettre justement d'être contributeurs de cette politique.
Pour rejoindre le quatrième défi, évidemment, l'habitat bas carbone et durable est une thématique absolument majeure pour GPH. C'est vraiment un fil rouge qui relie toutes mes équipes, que ce soit celles qui travaillent sur la rénovation, la réhabilitation ou la construction neuve. C'est vraiment une thématique sur laquelle les expérimentations des uns peuvent nourrir les autres, que ce soit sur le neuf ou sur l'existant, et sur lesquelles on a aussi besoin de travailler très étroitement avec les équipes d'Eric en charge de la maintenance. Parce que ces nouveaux matériaux, ces nouveaux modes de faire, ça va générer évidemment là aussi une maintenance qui a vocation à être également décarbonée.
Voilà. Alors, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je voudrais qu'on reparle de la décarbonation. Et justement, vous avez. Quand vous parlez de réhabilitation, Eric, est-ce que je peux évoquer le mot régénération ou pas ?
Régénération. Oui.
Est-ce que le fait de réhabiliter, finalement, vous redonnez vie à des bâtiments, vous leur redonnez.
Oui, on peut redonner vie à des. Oui, on redonne vie à des bâtiments, évidemment. Mais là, on n'est pas dans le dispositif de seconde vie.
Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Oui.
Mais en effet, ça veut dire que en revanche, on est, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire dans la volonté d'avoir un patrimoine résilient, qui dure, qui s'adapte aux changements climatiques et aux exigences énergétiques et de la transition énergétique, et du coup avec la nécessité d'utiliser d'autres matériaux, d'autres techniques, et donc forcément ça c'est très, très important pour nous sur la décarbonation.
C'est sans oublier le défi du cadre de vie.
Voilà.
C'est-à-dire
on
fait très attention. Oui. Certes, on travaille sur la décarbonation, mais c'est jamais au détriment du cadre de vie. C'est-à-dire que les habitants doivent d'abord être assurés de la sécurité dans leur logement, du confort. Et ça, les deux doivent avancer en même temps.
Je suis allé inaugurer cette réhabilitation de Trappes à Castiglione avec le maire et l'ensemble des habitants. Les habitants nous remerciaient. Parce que, en effet, ça produit un effet assez immédiat voilà, avec une baisse des nuisances sonores, avec une diminution de la consommation de leurs énergies, une meilleure régulation notamment du chauffage et donc donc une amélioration du confort de vie, mais de façon très significative. Donc ça, ils étaient évidemment très 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 satisfaits, et le maire aussi, et donc ça a été l'occasion de nous le dire. La décarbonation, c'est pour nous un enjeu très très fort, ça touche la question de l'habitation, ça touche aussi le raccordement, on le dit souvent, au réseau de chaleur. On avait identifié avec l'ensemble des équipes 15 000 logements à raccorder. L'année dernière, on a déjà fait plus de 1 700 qui ont été raccordés. On va continuer sur les années à venir pour justement accélérer cette démarche-là et ce travail-là, parce que pour nous, c'est essentiel. Donc, on est sur plusieurs volets.
Alors,
parce qu'arriver à décarboner notre patrimoine, il y a une étape qui est 2030.
Oui, absolument.
À descendre à 15 kg de consommation par mètre carré par an. On est à 25, je crois, de mémoire. Et arriver à zéro en 2050, ça veut dire que là, pour le coup, on a un effort supplémentaire à faire très important. Et c'est vrai qu'on agit sur plusieurs leviers.
En plus, d'ailleurs, avec la présidente Anne-Sophie Grave, on avait évoqué ce fameux diagnostic que vous avez mis en place, qui est extrêmement intéressant, sur la performance énergétique. Alors, la rénovation énergétique, je vais citer la feuille de route qu'avait développée dans son discours de politique générale le Premier ministre, et ensuite repris par Guillaume Casbarian, qui est celui de massifier durablement la rénovation énergétique. On est loin du compte en termes d'objectifs, bien que vous, dans votre groupe, vous avez non seulement été plus loin, mais vous avez carrément devancé la norme. Mmh. Parce que vous n'avez pas attendu effectivement le nouveau DPE et les réflexions qui ont été menées autour pour mener ces vastes chantiers. On peut même dire d'ailleurs que dans votre patrimoine, et on l'avait évoqué avec Anne-Sophie Grave à plusieurs reprises, vous étiez déjà prêt depuis un certain temps. Donc, on peut dire que c'est résilient. Comment, et c'est le sens de ma question, je voudrais qu'on évoque la rénovation des bâtiments, je voudrais qu'on évoque les sources d'énergie, parce que vous avez évoqué le raccordement au réseau de chaleur, mais il y a un mix énergétique aussi à trouver. Et enfin, est-on prêt, est-ce que cette industrie, selon vous, à date, si on prend la photographie, on est proche d'une structuration de la filière assez massive pour aborder ce chantier que j'appellerais moi le chantier du siècle, hein.
On a plusieurs leviers, hein, pour contribuer à structurer la filière, et y compris justement notre capacité d'acheter en VFA. C'est-à-dire que nous avons un cahier des charges vis-à-vis des promoteurs qui est assez exigeant, qu'on a renforcé, et on leur dit, si vous voulez nous vendre des logements, par exemple, nous on ne prend plus de logements avec des chaudières individuelles gaz. Donc, il faut imaginer quelque autre chose.
Oui,
et donc, dans nos discussions, si vous voulez, il n'y a pas que lorsqu'on est en maîtrise d'ouvrage neuf
en amont, vous avez déjà.
Mais vis-à-vis des promoteurs, on leur dit, écoutez, non. Alors, évidemment, ça suscite des... Alors, heureusement, maintenant, ils ont bien intégré, donc ils anticipent.
Oui.
Pardon. Mais parce que la mise en place de pompes à chaleur, ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Ça ne se suffit pas forcément. Donc, il faut trouver plusieurs systèmes pour avoir des solutions hybrides. Mais là, on a aussi ce levier-là. Pardon, qui est de peser sur les promoteurs pour faire évoluer les solutions qu'ils vont utiliser. Et puis évidemment, en agissant, Eric l'a développé, dans les réhabilitations et dans ce que nous faisons nous-mêmes en construction neuve. Quand on est en construction neuve, on dit que 100% de ce qu'on va produire en 2024 doit être au seuil 2025 de la RE 2020. Dès à présent, on anticipe et on commence à titre expérimental de sortir quelques produits au seuil 28. Même si tout le monde sait que c'est encore compliqué. Donc, on anticipe ces questions-là pour être donneur d'ordre.
D'ailleurs, j'avais demandé à Sophie Grave, justement, vous avez un volume déjà, j'allais dire, calibré dans le patrimoine de CDC Habitat, qui, comparé au secteur privé, quand je dis...
Non, mais oui, alors, c'est sûr, ça veut dire qu'on a commencé en 2008.
Oui.
Comme on a commencé en 2008, on a déjà... On n'a plus que... théoriquement 12% du patrimoine qui est en EF et G. Voilà, 12%, ça reste encore important, dont 1% en G, donc, mais qui est largement inférieur à ce qu'on peut trouver dans le patrimoine privé, par exemple.
Et absolument, c'est sans
voilà.
appel.
Et on le voit bien, ça sans comparaison, en effet. Donc cet effort-là, il a été fait il y a déjà 15 ans. Simplement, là, il y a un effet d'accélération. C'est logique. Hein, on le voit bien, c'est le contexte et c'est notre responsabilité. Et du coup, on va l'assumer, cet effort d'accélération. Mais ça veut dire, en effet, trouver des solutions. Ça veut dire aussi aider à faire émerger des filières qui ne sont pas toutes mûres, on le voit bien. Hein, sur les PAC, on en parle souvent avec Aude. Aujourd'hui, on n'est pas certain qu'il y ait une filière qui puisse répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire aujourd'hui à date. Mais c'est pas grave. Voilà.
Mais ça se structure.
Ça se structure. Voilà.
Ça avance. Il nous reste une minute pour conclure. Si je devais juste résumer l'illustration de nos propos, Aude, vous restez résolument optimiste et toujours constructive. On a des défis majeurs. Comment aujourd'hui, premier semestre 2024, vous envisagez la suite? Est-ce que vous êtes sereine? Un peu de prospective.
Sereine, c'est difficile. Je pense que nous avons beaucoup d'atouts au sein du groupe CDC Habitat. Nous avons une ambition et une stratégie qui sont extrêmement claires. Nous avons des compétences qui existent et qui sont vraiment présentes. Et nous avons des moyens financiers, puisque nous sommes une filiale à 100% de la Caisse des dépôts et que nous arrivons, par l'équilibre des choix qui sont faits par la gouvernance, à disposer de moyens pour conduire simultanément ces politiques, que ce soit la gestion sociale du parc, l'ambition patrimoniale et le développement. Donc je suis optimiste. On a une très grosse responsabilité par cette capacité d'entraînement que nous avons et nous mettons tout en œuvre pour être au rendez-vous.
Merci. Éric.
Pour compléter ce que dit Aude, évidemment, je suis aussi optimiste, mais à certaines conditions. Ça veut dire, un, rester mobilisé, et ça c'est très important. Rester mobilisé, ça veut dire engagé. Et puis, comme le disait Aude, ça veut dire continuer à jouer notre rôle, mais à l'ensemble des bailleurs, c'est pareil. Ça veut dire en fait être en capacité d'innover, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir justement trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de cette situation qui est aujourd'hui évidemment plus difficile que les années précédentes. Mais je reste résolument optimiste.
Alors, comme c'est d'usage dans toutes nos tables rondes, vous savez, vous me connaissez un peu, je vous propose un jeu pour terminer. Ah. Je vais vous demander à chacun un exercice que j'aime bien, de me dire spontanément un mot, un adjectif qui qualifierait et qui illustrerait les propos, mais très spontanément. Quel mot vous viendrait à l'esprit? On va commencer par vous, Aude.
Qualité de vie.
Un seul mot, il me faut.
Qualité.
Qualité.
je sais pas, efficacité.
Efficacité. Si l'on veut viser la qualité, encore faut-il développer de l'efficacité, et tout ça n'a qu'un seul but, vous donner un cadre de vie pour qu'on tous, demain, nous puissions vivre bien, mieux et ensemble. Merci Aude de Breil.
Merci Sylvain.
Présidente de Grand Paris Habitat. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je sais qu'on va se revoir bientôt. C'est un vrai plaisir. Je me réjouis également de revoir Éric Dubertrand, parce qu'on a un rendez-vous avec Éric régulièrement. Mmh. C'est toujours extrêmement intéressant. Merci d'ailleurs à CDC Habitat de nous laisser le temps. Voilà, parce qu'on est dans la dictature de l'immédiateté en ce moment, du court, des formats courts. Je ne supporte pas, moi, les formats courts, je vous le dis. Là, on a passé 45 minutes pour développer du fond, parce qu'une idée complexe, on ne peut pas la résumer à moins d'imposture en 3 minutes. Voilà, donc on l'a développé. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous y avez prêté. Ce podcast, bien sûr, est téléchargeable sur les plateformes. N'hésitez pas, morceler, écoutez dans la votre voiture. On a du fichier, on a les images qui vont bien avec. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine table ronde avec nos partenaires de CDC Habitat.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec CDC Habitat, sur Radio Immo et Radio Territoria.